Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Radio Alpa 107.3 Le Mans. Bienvenue en Asialogie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. À la technique, mon compagnon de voyage Didier. Bonjour Didier.
Bonjour Corinne, bonjour tout le monde.
Alors pour terminer la saison beauté, on vous l'avait promis, oui. Et une fois n'est pas coutume,
clairement.
Asialogie va vous offrir, chères auditrices et auditeurs, avant de partir en vacances, un voyage musical cette fois.
Ouais, alors ça.
Oui, à travers la Chine, le Japon et la Corée, d'accord. Avec un cocktail de chansons de variété.
Oui.
C'est de la chanson de variété, on est d'accord.
D'accord.
Qui va peut-être vous étonner quand même.
Ah ah.
Oui, j'espère un peu quand même.
Bah c'est l'idée.
Oui.
Alors. Donc, avant la musique coréenne,
oui.
Un peu d'histoire,
oui, quand
comme
même.
D'habitude.
Hein. Quand même. Oui.
Depuis quand parle-t-on de chansons de variété en Asie, tout simplement?
Bah pour les trois pays, ça a commencé quand même un peu plus tard qu'en Europe, vers 1920.
D'accord.
Et les chansons de variété ont occupé tout de suite une place centrale dans la culture, hein, dans les loisirs et dans le plaisir, je dirais.
D'accord.
Donc la Chine, le Japon et la Corée partagent de nombreuses influences historiques et culturelles, mm-hmm. Mais leur musique et chansons populaires ont suivi des trajectoires différentes avec la modernisation, les échanges internationaux, les transformations politiques et le développement de leurs industries culturelles qui ne s'est pas fait tout à fait au même rythme,
j'imagine.
Ni dans la même direction.
Bien sûr.
Alors l'histoire des chansons de variété de ces trois pays montre comment les genres initialement influencés par l'Occident, parce que ça vient de l'Occident, il faut être clair, ont progressivement acquis des caractéristiques nationales asiatiques fortes,
ouais.
Donnant naissance à des stars dont la popularité a parfois dépassé les frontières de leur pays.
Ok, donc voilà. Ok, Corinne, voyons ça. Et alors, Corinne, si on commençait par la Chine.
Bah oui, les chansons de variété apparaissent particulièrement à Shanghai, en Chine, ouais. Entre les années 1920 et 1930. Hein, mmh. Parce que Shanghai, c'était vraiment un centre cosmopolite,
ouais.
Hein, où se côtoyaient les influences chinoises, bien sûr, mais européennes et américaines. Hein, on
et
avait
oui,
des comptoirs là-bas, hein, des quartiers, des légations, ça s'appelait à Shanghai, d'ailleurs, qu'on peut toujours visiter, les légations françaises, hollandaises,
oui.
Etc. Alors, les compositeurs chinois, en intégrant des harmonies occidentales aux mélodies traditionnelles, ont créé un nouveau style appelé Shidaichu, ça veut dire chansons de l'époque,
okay.
Qui ont constitué la première forme moderne de musique populaire chinoise. Et parmi les pionnières figure Zhu Xuan, considérée peut-être comme la première grande star de la chanson populaire chinoise.
Okay.
Et elle a séduit un vaste public grâce aux films musicaux dans lesquels elle apparaissait.
Oui, j'ai vu ça, oui.
Voilà, et ses chansons sont devenues les emblèmes de l'âge d'or de Shanghai avant la Seconde Guerre mondiale. Donc
okay.
On va l'écouter.
Oui, alors bien sûr.
Cette Zhu Xuan avec Blooming Flower.
Vous
Full
en avez
Moon.
L'habitude, ce ne sera que les extraits.
Oui, bien sûr. On ne peut pas faire autrement.
Tu as lancé le phonographe, là, en fait.
Oui, c'est ça.
C'est ça, hein, on y est.
Oui,
là.
Écoute, les années 30. Hein.
C'est rigolo.
Oui, influence moderne, occidentale et traditionnelle chinoise, on entend bien ça.
C'est sympathique, oui.
Avec Zhu Xuan.
Ok, pour Zhu Xuan. Alors.
Alors, oui, après.
Eh oui.
Après. Après la révolution de 49, les autorités ont imposé les chants révolutionnaires et patriotiques. Et la musique de variété a alors été largement marginalisée en Chine continentale, contrairement à Taïwan. Et à Hong Kong, parce qu'Hong Kong était anglaise à l'époque.
Oui.
Hein. Et là-bas, les artistes vont jouer un rôle essentiel dans la diffusion de la chanson populaire en langue chinoise à travers le monde.
Okay.
Et la figure des années 70 la plus marquante, on en a déjà un petit peu parlé, elle méritera une émission à part entière un de ces jours, c'est Teresa Teng.
Oui,
elle a eu et a toujours un succès immense partout dans le monde, là où il y a des Chinois.
D'accord.
Et bien qu'elle ait été longtemps censurée en Chine continentale, Ces chansons ont circulé clandestinement et elle est devenue extrêmement populaire là-bas et a influencé et influence encore des générations d'artistes.
Ah oui,
c'est l'heure d'Alida, Edith Piaf.
D'accord, ok, je situe.
Bon, on l'écoute un peu dans de ses titres emblématiques qui s'appelle Tian Mimi. Très, très connue cette chanson-là.
Voilà pour cet extrait de Teresa Teng. Alors donc, maintenant, aujourd'hui, qui est le ou la chanteuse la plus populaire de Chine, la plus populaire, pardon, populaire
aujourd'hui.
De Chine? Eh oui, aujourd'hui.
Alors, c'est à partir des réformes économiques des années 80, fameuses réformes économiques des années 80 avec Deng Xiaoping, que la Chine va s'ouvrir aux influences étrangères et les chansons de variété vont revenir sur le devant de la scène avec la mandopop. On avait la J-pop, on a eu la mandopop, on l'a toujours d'ailleurs, et puis la K-pop bien sûr après.
Ça.
Alors, la mandopop, de nombreux chanteurs vont imposer un style nouveau qui mêle la pop, le rock alternatif et les influences internationales.
Okay.
Et puis, en fait, le plus célèbre et qui est toujours célèbre, c'est le fameux J-Chu.
Oui, lui, tu m'as fait découvrir.
Oui, c'est quand même un grand... lui, il est reconnu à l'international même. Hein, et qui combine dans ses chansons hip-hop... R&B, musique classique, éléments traditionnels, et avec une approche, cette approche innovante, il a renouvelé et influencé profondément la chanson populaire en Asie.
D'accord.
Pas que en Chine, c'est une grande figure.
Okay.
Alors aujourd'hui, des artistes tels que GEM, Game, on a déjà passé ce groupe.
Il
y a Hua Shenyu ou Jackson Wang, montrent la diversité, le dynamisme de la scène musicale chinoise actuelle. Ce sont des chanteurs très prometteurs qui sont devenus un élément essentiel de l'industrie culturelle du pays aujourd'hui.
Okay.
Et donc, on va écouter Zhou Shen. Qui est aussi un jeune chanteur plein d'avenir.
D'accord.
Voilà. Et je connais pas le titre de la chanson par contre. Mais donc c'est un de ceux qui s'écoutent beaucoup beaucoup en ce moment.
Ok.
Merci Didier de l'avoir laissé un peu plus longtemps. Celle-là.
Oui.
Ouais, je l'aime bien.
On va pas
Chen.
Tous découper trop.
Bon, très en vogue en Chine, hein, oui. Ce jeune-là. Alors Didier, maintenant, parle-nous des chanteurs de variété japonais. Comment on est arrivé à la J-pop?
Ah bah alors, les influences musicales occidentales vont entrer progressivement au Japon hein, durant l'ère Meiji à partir de 1910 et entre les années 1920 et 1930 que vont apparaître les premières chansons modernes japonaises diffusées à la radio.
La radio très importante
à
cette époque.
Bien sûr.
C'était comme toujours.
Le média. Enfin, voilà. Après la Seconde Guerre mondiale, la reconstruction rapide du pays et une forte croissance économique vont favoriser l'émergence du Kaiyo, Kyokyu, l'ancêtre direct de la chanson de variété japonaise avec Hibari Mizora, une des premières grandes vedettes de cette époque, et symbole national avec des chansons qui mêlent l'émotion, la nostalgie et l'identité japonaise. Bah, elle est restée l'une des artistes les plus admirées de l'histoire musicale du Japon.
Oui, tu nous l'as fait écouter, Hibari Mizora.
Je vais vous la faire écouter. Écoutons.
C'était la très jolie voix de Hibari
Mizora.
J'avoue
que j'aime beaucoup.
Un vraiment magnifique voix
très
de cette grande, grande chanteuse japonaise.
C'est ça.
Alors, bah, on arrive dans les années 70 au Japon, Didier.
Ah, oui.
Alors, dans les années 70, quelle était la tendance au Japon?
D'après toi, en fait, il y avait quoi comme tendance dans les années 70?
Le
un
rock.
Truc qui a balayé un petit peu tout partout.
C'est vrai.
Ah, et oui, dans les années 60-70, l'influence du rock britannique et de la pop américaine va transformer profondément la musique de variété japonaise avec des groupes comme The Tiger, qu'on va vous faire écouter, ou Happy End et les maisons de disques qui vont développer des stratégies de promotion pour atteindre un système de vedettariat comparable à l'Occident. Et alors là, The Tiger, si vous ne savez pas qui ils ont copié, là, je pense que...
ils étaient influencés.
Clairement, comme partout dans le monde entier à ce moment-là. Mais vous allez vite comprendre et vite découvrir avec cet extrait de chanson.
Donc The Tiger, ça, c'est ça.
C'est ça.
愛を残したまま僕を一人にしたどこにあなたはいる朝は二度と帰らない今では手を差し伸べても届かない届かない幸せ抱く前に愛は苦しみに 追いかけても
C'était très nostalgique, hein, The Tigers.
Oui, ça nous a replongé.
Oui, c'est ça. Oui, un petit alors, côté comme ça.
Pour les auditeurs qui ne connaissent pas The Tigers, alors bon, je ne connaissais pas beaucoup, hein, à part pour rechercher pour l'émission, il y a aussi parfois une très très grosse influence Beatles. Hein, on le sent très très fort. Ouais, on y était à cette époque-là, il faut le dire.
Ah ouais, c'est, je trouve ça amusant d'écouter
ça.
C'est
drôle.
J'espère que nos auditeurs et auditrices aussi.
Pour une fois, on a passé de la
alors,
musique.
Alors, après les années 80, Didier.
Oui. Eh bien,
qu'est-ce qui s'est passé avec la J-pop?
Les idoles apparaîtront à partir des années 80. Hein, et ce sera une étape décisive pour faire de la chanson de variété un produit culturel majeur sur le thème de J-pop. Et à partir des années 2000, plusieurs artistes japonais acquièrent une renommée internationale comme Hikaru Utada. Puis, récemment, on en avait parlé dans une précédente émission.
Sur les idoles.
Les groupes comme... AKB48 ont développé un modèle fondé sur la proximité avec les fans, hein, tandis que les formations comme Yoa Sobi représentent le renouvellement de la J-pop contemporaine. Aujourd'hui, le Japon possède un des plus importants marchés musicaux du monde, avec une industrie très structurée et un public fidèle, comme on en avait parlé. Hein, c'est intrinsèque au Japon. Écoutons un autre. Donc...
Ça ne sort pas trop des frontières.
Non, c'est ça. On l'avait déjà évoqué dans une autre émission. Écoutons un autre donc, chanteur prometteur, lui. Je ne sais pas, on verra. Hein,
s'il va arriver jusqu'à nous en France. Il va remplir un stade de France.
Ah, qui sait. Pas en juillet. Ce
non.
sera d'autres.
Non, non, c'est d'accord. Occupé en juillet.
C'est ça. Alors, donc, la variété coréenne d'aujourd'hui, bah, on la connaît mieux, hein, ça, je crois que c'est clair. Hein.
Oui,
on va
on
pas revenir
mieux.
Là-dessus. Mais avant la vague Hallyu, qui écoutait-on en Corée ?
Bah, l'histoire de la chanson de variété en Corée présente des similitudes avec celle du Japon, forcément,
ouais.
À cause de la période de domination japonaise, ça s'est superposé entre 1910 et 1945, et les musiciens coréens ont été forcément influencés par la musique populaire du Japon.
Oui.
Et c'est dans ce contexte qu'est apparu ce qu'on appelle le trot,
ah.
La plus vieille forme de musique populaire coréenne.
D'accord.
Alors je dirais, ça correspond au kayo-kyoku japonais dont tu nous as parlé, Didier.
D'accord.
L'ancêtre de la chanson directe de la variété japonaise avec Hibari Misora.
Oui.
Voilà. Et le trot, qu'on écoute toujours beaucoup en Corée, les anciens surtout.
Oui. Hein,
et donc, c'était un genre caractérisé par des mélodies sentimentales,
d'accord.
Reflétant les sentiments d'un peuple étouffé par la politique d'assimilation. Quand même, derrière tout ça, toujours en Corée, il y a référence à l'étouffement de la société pendant la colonisation japonaise.
Okay.
Et donc, c'est un genre qui est remis au goût du jour. Donc,
oui.
On va écouter quelqu'un de cette époque qui chante toujours Daesung.
Alors, ok.
C'est Look at Me, Daesung.
Découvrons ça.
Chanson d'amour.
Ah-ha. Ah oui, la Corinne, tu nous as pas menti, c'est marqué quand même. Hein.
Il y a
je
ne
sais pas comment
le
dire autrement. En fait.
Entre ça et la K-pop quand même.
Oui, alors je crois que les auditeurs et auditrices ont compris, je ne suis pas un fan inconditionnel de K-pop, mais j'aime mieux quand même la K-pop que ça. Ça, c'est un petit peu marqué.
C'est
l'idée de l'émission, c'est de découvrir justement différentes tendances
exactement.
Qui ont existé.
Okay. Donc le trot, mais il y a aussi des chansons plus larmoyantes.
D'accord.
Un petit peu comme on écoutait aussi en
partout,
Europe, bien sûr. Alors dans les années qui vont suivre la guerre de Corée, avec la présence américaine, les musiciens coréens vont découvrir le jazz, le rock, la soul et la pop occidentale.
D'accord.
Ce qui va transformer... Alors du coup, il s'était émancipé du Japon.
Hein, oui, bien sûr.
Et ça va transformer progressivement la musique populaire coréenne. C'est-à-dire que là, il y a une infiltration en direct.
Mm-hmm.
Pas de filtre.
Oui, je comprends.
Et l'un des premiers grands chanteurs modernes, c'est Cho Yong-pil. Très, très grand chanteur, vraiment.
Après,
coréen, qui a traversé les années et qui va connaître un immense succès à partir des années 70, car grâce à sa capacité de mélanger les différents styles musicaux. Il s'est approprié toutes sortes de choses. Donc là aussi, on va écouter Cho Yong-pil, très très grand chanteur coréen, très grand succès, toujours toujours écouté.
J'ai découvert, c'est sympa.
Cho Yong-pil, oui.
Alors voilà Corinne, moi j'ai bien aimé, alors je sais pas si les auditeurs vont peut-être bondir que je dise ça, mais moi j'ai un petit côté Genesis par là, comme ça.
Oui, oui, oui,
je sais pas,
Phil Collins, c'est à découvrir. Mais je pense qu'il faudra un jour qu'on fasse une émission sur lui, parce que, sur quelques grands chanteurs comme ça, parce que quand même ils ont marqué une époque, mais aussi marqué des générations et ont beaucoup influencé comme d'autres chez nous, faire des
D'accord.
comparaisons peut-être,
okay.
ça peut être intéressant. Alors, donc après Cho Young-pil, enfin après, je ne devrais pas dire ça, je dirais à la suite, parce que c'est un peu pareil après, à la suite. Oui. Cho Young-pil, on l'écoute toujours.
D'accord. Hein,
c'est vrai. Mais il y aura le véritable tournant dans les années 90 okay. avec, je dirais pas les ancêtres, ils m'en voudraient beaucoup, avec le groupe Sotaiji and Boys, D'accord. considérés comme les fondateurs de la K-pop moderne.
Okay.
Des beaux gosses qui dansent bien, qui chantent bien.
Oui, sur ce,
voilà,
je suis surpris là.
Et qui vont introduire le rap et le hip-hop dans leur musique.
D'accord.
Et je dirais qu'on connaît la suite, Didier. Avec, dans les années 2010, Boa, Psy,
oui.
Gangnam Style,
oui,
Psy, c'est quand même
c'est
été peut-être le premier chanteur coréen qui a été mondialement...
Qui a touché au-delà des passionnés de K-pop et,
voilà.
et qui ne connaissaient pas la culture
c'est
comme ça.
Ça. C'est
là,
ça.
C'est une déferlante.
Ça a été une déferlante, tout à fait. Et bien sûr, après, parce que ils sont pas si, même s'ils sont encore très jeunes, la trentaine...
Ils ont déjà un petit peu de bouteille.
Ils ont, ça fait 13 ans qu'on les entend, les BTS.
Et voilà,
c'est un groupe quand même.
Rendez-vous en juillet, quoi. On en reparle en septembre, quoi.
Oui, on en reparlera en septembre, mais c'est vrai, ils ont commencé très très jeunes, ça fait 13 ans. Et Blackpink, bien sûr,
D'accord.
les filles qui
ont
commencé il y a longtemps.
Parfait,
et qui, voilà. Et ils sont devenus, bien sûr, eux, des phénomènes mondiaux.
On est d'accord.
Bon, notre troisième saison se termine.
C'est ça, et ça, c'est pas un phénomène mondial,
non,
pas encore, mais ça va
pas
venir.
Encore. On a hâte de commencer la quatrième
c'est
en septembre.
Allez, prendre le soleil, se reposer un peu. Réfléchir à des nouveaux sujets.
Enfin, exactement, on en a plein sous le coude.
Voilà.
C'est passionnant.
Et vous retrouvez à la rentrée prochaine.
Avec grand plaisir. On vous souhaite de très bonnes vacances
exactement.
À tous. Écoutez Asialogie parce qu'on
c'est
va
ça.
Être rediffusé
eh oui.
tout l'été.
On peut se
plusieurs
rebercer.
Fois dans la semaine. Alors peut-être chaque jour dans la semaine.
On n'a pas la grille, mais souvent.
Pas encore, mais on sera souvent sur
ça.
Radio Alpa cet été.
Exactement.
Et toujours bien sûr en podcast sur toutes les plateformes. Donc on se retrouve à la rentrée.
Ouais.
Prenez soin de vous, passez
c'est
de bonnes
ça.
Vacances, profitez.
Une excuse de ne pas avoir écouté toute la saison pour être prêt en septembre.
Voilà, il faut réviser cet été.
Allez, on vous souhaite de bonnes vacances. À bientôt.
Salut.